Je ne sais pas si vous imaginez la surprise des gens de Jérusalem. À Jérusalem, nous sommes sous l'autorité du roi Hérode. Ça fait déjà de nombreuses années, il a accompli de grandes choses. Et voilà que des mages, des astronomes ou astrologues venus d'Orient, de Babylonie vraisemblablement, débarquent à Jérusalem en demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Et une grande stupeur là. Comment ? Deux choses. Des mages d'Orient viennent se prosterner devant le roi d'Israël, mais un roi, on en a déjà un, et il ne vient pas de naître. Il y a toute une inquiétude qui se produit, on pourrait dire comme une ville endormie qui tout d'un coup se réveille. Et on a quand même une intelligence en disant, mais ils parlent du roi des Juifs. En fait, ils disent, ils ont vu son étoile se lever. Ça correspond à un oracle du Messie, à l'oracle qu'avait prononcé Balaam autrefois, au moment où le peuple sortait d'Égypte, il y a plus de 1000 ans. Et de fait, on va consulter, on va relire, et on apprend que c'est à Bethléem, en Juda, que doit naître le Messie. Mais il y a quelque chose de très étonnant, justement, ils viennent adorer le Messie des Juifs. Des païens viennent adorer le Messie des Juifs. Non, on n'avait pas du tout prévu ça. Vous savez, on est dans une époque où chaque pays a sa divinité. Alors nous, en Israël, nous avons le Dieu qui s'est révélé à Moïse, à Abraham, à Jacob, à Isaac. Mais ceux qui viennent de la Babylonie, qu'ils reconnaissent la puissance de notre Dieu, oui, mais non, ils viennent plus que ça, ils viennent se prosterner. Et donc tout d'un coup, il y a comme une espèce de réveil, il se passe quelque chose, tiens, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, mais que les païens ont vu. Ils ont vu une lumière qu'on avait peut-être oubliée. Et puis, quand on suit les mages, vous voyez que les mages viennent, et ils vont se prosterner devant quoi ? Un magnifique palais avec des serviteurs partout, de l'or, etc. Non, ils arrivent dans un lieu très humble, où il y a simplement un petit enfant qui est couché dans une mangeoire. On va dire, mais il y a quoi à voir ? Et pourtant, des petits-enfants, ils en ont déjà vu, hein, il y en a en Babylonie, il n'y a pas de problème. Mais ils se prosternent devant lui, et ce n'est pas simplement qu'ils se prosternent devant lui en se disant « celui-ci sera grand plus tard ». Il lui offre de l'or, d'accord, de l'or c'est un cadeau royal. Il lui offre de la myrrhe aussi, ce parfum précieux. On saura plus tard que c'est en vue de son ensevelissement. Mais il lui offre de l'encens. Et ça, ce n'est pas tout à fait normal, parce que l'encens, c'est une offrande qu'on fait à Dieu. Ça signifie que s'il lui offre de l'encens, il reconnaissent en ce petit enfant qui ressemble à tous les autres petits enfants, ils reconnaissent la présence de Dieu. Ils reconnaissent la présence de Dieu devant eux. Ils ne se prosternent pas devant la chair et le sang, ils se prosternent devant Dieu qu'ils reconnaissent en ce petit enfant. Et il y a quelque chose qui les émerveille. Il y a quelque chose qui les émerveille et peut-être sommes-nous appelés à demander la grâce de cet émerveillement ? Parce qu'on a peut-être tellement l'habitude d'installer une crèche qu'on ne s'émerveille plus devant ce qui est donné à voir. Vous savez, on est dans un monde qui promeut l'efficacité. Si vous n'êtes plus efficace, vous n'avez plus de place. Au rebut, disparaissez, vous coûtez cher. Et voilà que Dieu se fait présent, petit enfant, dans celui, on pourrait dire, qui est encore complètement inutile. Il ne sait même pas parler, il ne peut pas prendre soin de lui-même. Et Dieu est là, et Dieu vient révéler dans cette fragilité sa présence, vient révéler sa présence, sa dignité dans cette vulnérabilité. L'honneur n'appartient pas qu'à la force, à la puissance. La vulnérabilité du petit enfant est habitée de la dignité de Dieu. Et il y a quelque chose de merveilleux là, parce que ça permet de relire notre propre vie. Vous savez, parfois on se met devant le miroir, on regarde et on se dit « j'aime pas trop ce que je vois ». Alors ça peut être soit parce qu'on prend de l'âge, hein, on devient blanc, on a moins de cheveux, on a moins de force, on a moins d'équilibre. Mais parfois c'est tel ou tel projet qui n'a pas fonctionné. J'avais mis pourtant beaucoup de cœur et ça n'a pas été reconnu, ça n'a pas marché. C'est telle alliance, telle association, on s'est séparés. Et j'ai l'impression parfois de voir un peu un champ de ruines. Et je me dis, mais je fais quoi avec ça? J'aime pas ce que je vois. Est-ce que ça peut avoir une valeur? Et voilà que face à ma vulnérabilité, face à la fragilité de mon histoire, je peux être empli d'un grand découragement. Et face à ce découragement, il y a une révélation qui se fait, mais que les mages perçoivent. Le Seigneur est venu habiter jusque dans la vulnérabilité, jusque dans la fragilité, jusque dans ceux qui n'étaient pas productifs aux yeux des hommes, ceux qui prenaient du temps, de l'énergie et qui coûtaient cher, un petit enfant. Voilà que Dieu est venu l'habiter. Et donc si Dieu est venu l'habiter, c'est un signe que Dieu peut venir habiter, veut venir habiter ma vulnérabilité, veut venir habiter ma fragilité, au cœur même de ma maladie, au cœur même de mon impuissance, au cœur même de mon histoire. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Dieu veut venir l'habiter. Et ça change complètement le regard que ces mages portent sur leur vie, sur le monde et sur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se permettent justement d'offrir ces trois présents précieux. Parce qu'on va dire, mais ils se sont dépouillés là. C'est une bonne idée de se dépouiller. T'en as devant un petit enfant. C'est même pas quelqu'un qu'on pourrait acheter. Ça, je lui ai donné quelque chose parce que j'espère en retour ses bonnes grâces. Il est incapable à ce moment-là de saisir, je dirais, le précieux de ces choses-là. Mais c'est parce que ce qu'ils ont vu, touché, éprouvé de cet avenir donné par la présence de Dieu dans la vulnérabilité est quelque chose qui vaut le coup, qui vaut plus que tout. Et ce dépouillement, en fait, c'est pas un dépouillement, vous voyez, on nous dit qu'ils vont rentrer par un autre chemin. C'est à la fois pour éviter Hérode, mais c'est aussi le signe spirituellement qu'il y a un nouveau chemin de vie qui s'est ouvert à eux. Il y a un nouveau chemin de vie qui s'est ouvert à eux, qu'ils n'avaient pas imaginé et qui leur est donné. Ils ne repartent pas chez eux comme ils s'étaient venus. Il y a quelque chose de beaucoup plus précieux que l'or, que la myrrhe et que l'encens qui leur a été donné. Cette présence, cette révélation de Dieu au cœur même de la vulnérabilité. Et donc, en offrant leur cadeau, c'est pas tant qu'ils se sont dépouillés qu'ils ont voulu participer à l'émerveillement qui leur était donné de contempler. Vous êtes toujours vivant? Oui, en tapant là-dessus, j'en ai réveillé deux ou trois qui ont sursauté, ce qui fait... Voilà. Non, je voudrais vous réveiller là parce que participer à l'émerveillement, vous savez, c'est au cœur de la louange. Parfois, on ne se comprend pas bien. Qu'est-ce que c'est la louange? Une des façons de l'exprimer, la louange, c'est de voir... je ne sais pas, vous vous promenez, vous voyez un beau lever de soleil ou un beau coucher de soleil, ça dépend. Vous voyez les étoiles... Vous vous promenez dans la nature, et tout d'un coup, vous avez envie de siffloter, de chantonner. Mais pourquoi vous chantonnez? Parce que ce que vous voyez est beau. Et vous avez, d'une certaine manière, envie d'y participer, envie d'apporter quelque chose qui vient de vous, qu'il s'unisse à cette beauté que vous contemplez. Et vous offrez de vous-même pour être participant de cette beauté. Eh bien, les mages offrent de leur talent. Ils voient la beauté du Dieu qui s'est fait chair, du Dieu qui renouvelle notre vie, qui renouvellent leur vie, nos vies. Et du coup, ils veulent participer en offrant ce qu'ils ont de précieux, ce qui leur appartient, ce qui dit quelque chose d'eux-mêmes. Et de la même façon que le sifflotement s'unit à la beauté contemplée, l'offrande des mages s'unit à l'émerveillement devant cet avenir que le Seigneur nous ouvre. Et voyez, les mages ont été du coup objet d'étonnement pour les habitants de Jérusalem. Et nous aussi, nous pouvons devenir objet d'étonnement pour notre monde, pour notre quartier, pour notre famille. Comment ça? Vous voyez, les gens de Jérusalem ont été réveillés par la présence des mages avec leur offrande. Eh bien, nous aussi, nous pouvons offrir de nous-mêmes, pour réveiller autour de nous, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette offrande? Il y a quelque chose à voir? Il y a quelque chose à contempler? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme offrande? Parce que moi, je n'ai pas une mine d'or dans mon jardin. Je n'ai pas de jardin, peut-être, d'ailleurs. C'est encore plus compliqué. De l'encens, j'en fabrique pas. Et de la myrrhe, je ne sais pas où en trouver. Ah, mais il ne nous est pas demandé d'offrir des choses, justement, qui n'auraient rien à voir avec nous-mêmes, mais d'offrir de ce que nous sommes. Vous savez jouer de la trompette? Vous venez de jouer de la trompette à l'église? Vous venez offrir de votre talent? Et vous pouvez étonner, dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on a un accompagnement à la trompette aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à contempler? Ou peut-être, vous dites, bah, les enfants, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter? On ne possède pas grand-chose. Ben, vous pourriez reprendre cette page, peut-être de l'évangile des mages, et vous dire, je vais la recopier, parce que je sais écrire, je vais la recopier sur une belle page. Et à la prière, en famille, peut-être cette semaine, je viendrai la déposer. Tiens, j'ai offert. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que le Seigneur est venu parmi nous. Et nous donnons à interpeller, nous donnons en présentant quelque chose de nous-mêmes, en rendant ce service, cette présence. Nous venons donner cette occasion, nous mettons notre talent parce que nous avons découvert cet émerveillement et nous voulons le faire partager. Frères et sœurs, en cette fête de l'Épiphanie, qui nous révèle que ce qui est le plus vulnérable en nous, ce qui a peut-être été le plus brisé, ce qui d'une certaine manière est le plus païen en nous, peut recevoir la bonne nouvelle du Messie qui vient, ce Messie des Juifs qui est aussi le Messie des païens, qui veut convertir, toucher, saisir, renouveler tout notre être. Demandons la grâce de nous émerveiller comme les mages se sont émerveillés. Et réfléchissons à cette offrande que nous pouvons faire de nous-mêmes, cette offrande de notre talent, un exercice, un temps d'offrande de notre talent. Ça peut être simplement un sourire, mais que nous l'offrions, que nous devenions occasion d'interrogation. Que se passe-t-il pour que tu offres ceci, ce talent, ce sourire, ce service? Dieu est venu remplir notre vulnérabilité. Dieu me donne, Dieu nous donne un nouveau chemin de vie. Amen.